bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va se lever. On va prier un moment ensemble. Et après, nous allons partager la parole de Dieu. Que tout le monde se lève. Merci. Alléluia. Levez vos mains vers le Seigneur. Nous allons prier. Parce que la parole de Dieu, c'est une autorité. L'autorité suprême qui doit gouverner notre vie. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement une parole, un livre qui a été écrit. Mais ce qu'il y a dans cette parole doit nous amener à un profond changement. Amen. Et ça, ça doit être notre désir. Mais pour ça, il faut que nos cœurs soient prêts. Il faut que ton cœur soit prêt, mon frère, ma sœur. Père, je prie pour cette assemblée. Je te remercie pour l'amour, la grâce qu'il y a sur cette assemblée. Merci pour le pasteur Fofi avec son épouse. Merci Père pour cet amour avec lequel il nous accueille. Père, je prie vraiment pour que cette semaine soit une semaine où tu touches les cœurs. Père, nous savons que tu es un Dieu extraordinaire d'amour. Nous savons, mon Père, que tu es vraiment merveilleux et que tu veux nous amener dans de nouvelles dimensions. Je prie pour chaque personne ici, chaque personne qui peut-être ne comprend pas là où tu veux l'amener, Seigneur. Afin qu'elle puisse refléter ton royaume et influencer ce monde, Seigneur. Père, je prie pour que cette église devienne une église d'influence. Et nous savons, Père, qu'une des façons d'être influent, c'est au travers de nos finances. Et Père, je te loue pour cela. Je te prie pour chaque personne ici. Je crois que personne n'est là par hasard, Seigneur. Mais que tu veux, Seigneur, que chaque personne soit touchée d'une façon spéciale. Merci, mon Père. Merci. Parce que toute cette semaine que nous allons passer ensemble, il va y avoir un contact avec ta parole. Un contact avec ta parole. Répétez après moi. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Elle est puissante. Je veux la comprendre avec ma tête. Mais je veux aussi la comprendre avec mon cœur. Je prends cette décision de pratiquer ta parole, quelles que soient mes circonstances. Parce que ta parole doit dominer dans ma vie. Je te remercie pour cette parole. Ta parole, Seigneur, c'est ce que tu as écrit pour moi. Elle me parle personnellement. Je vais la recevoir avec un cœur ouvert. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Alléluia, gloire à Dieu, Amen, Alléluia, Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, merci. Je bénis le Seigneur pour votre pasteur. J'aime beaucoup votre pasteur. Et son épouse, ce sont vraiment des gens qui sont super. Vous savez, dans le ministère, on rencontre beaucoup de gens, beaucoup de choses aussi. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour de tels serviteurs de Dieu qui se tiennent à la brèche pour la vérité. Amen. Et ça, c'est important. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir partager la parole aussi longuement. Vous savez que c'est très rare qu'un pasteur accepte et vous dise, voilà, viens faire un séminaire pour tant de jours. Parce que vous savez, moi, mon ministère est principalement un ministère d'enseignement. Je suis pasteur, bien sûr, d'une église à Bujumbura, au Burundi. Il y a des Burundais parmi nous? Il y a des Burundais parmi nous? Amen, amen, amen. Ça va, les Burundi? Murakomeye, Nisawa? Ok, c'est bon alors. Vous êtes là. Ok, nous sommes ensemble. Alors, cette semaine, en fait, ça va être une semaine d'enseignement. Et vous savez, l'enseignement, c'est pas comme la prédication. La prédication, vous avez un prédicateur qui arrive, qui est en feu et qui crie, qui vous amène en fait à vous provoquer au changement selon la parole de Dieu. D'accord? Et je pense que vous avez un bon prédicateur dans la maison. Ok. Moi, je suis plus un enseignant. Alors, je crie rarement, ça m'arrive rarement, sauf quand vraiment je suis dans l'onction et que j'agis dans l'onction au niveau de la prière. Mais quand j'enseigne, c'est beaucoup plus calme. Donc, ok, Donc vous attendez pas à ce que je crie, que je saute, que je hurle. Mais par contre, la parole de Dieu va pénétrer en vous. Elle va venir vous laver. Elle va venir changer les mentalités. Et ça va vous aider à changer vos comportements aussi. Parce qu'on va parler des comportements financiers. On va parler de beaucoup de choses. Donc pendant ces jours où on va être ensemble, on va construire. Okay, on va construire une maison en quelque sorte. On va d'abord poser des fondations, puis on va monter des murs, on va faire l'intérieur, et puis on va construire jusqu'au toit. Voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que je vois des vies transformées. Parce que vous savez, la parole de Dieu, on doit y être soumis pendant un bon bout de temps. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans ce monde. Et le monde nous influence. Comme nous allons voir d'ailleurs dans les finances, nous allons découvrir qu'il y a beaucoup d'influence dans le monde. Alors, il va falloir apprendre à justement mettre les lois qui gouvernent le royaume de Dieu, qui vont aller à l'encontre du flot de mentalité que l'on trouve dans le monde. Et vous allez voir que c'est très simple. Le tout, c'est d'avoir les clés. Nous allons commencer par 3 Jean verset 2. 3 Jean 2, c'est un verset que nous connaissons beaucoup. Et je vais vous montrer un certain nombre de choses qui courent dans l'église de Dieu en général. On va parler des mentalités, on va parler de toutes sortes de choses que vous entendez à droite et à gauche. Et je vais vous donner un enseignement qui est très équilibré sur ce qu'on va appeler la prospérité. Et j'ai nommé cette série d'enseignements les 5 piliers de notre prospérité. Les 5 piliers de notre prospérité. Il est dit... C'est Jean qui parle et qui écrit à Gaius et il dit, bien-aimé, verset 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors ce mot « prospérer », en fait, littéralement dans le grec, ce verbe veut dire « faire un excellent voyage ». Voilà ce que ça veut dire. « Prospérer », littéralement dans le grec, ça veut dire « faire un excellent voyage ». Souvent, quand on parle de prospérité, tout de suite, quel mot vient avec prospérité? Quand je vous dis prospérité ou prospérer, on parle d'argent. Voilà. Et c'est là où je vais vous montrer justement où on a eu un petit, je dirais, où nos mentalités sont tordues quelque part. Parce que nous allons découvrir que la prospérité selon Dieu, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus immense que uniquement les finances. On va voir que les finances, c'est un fruit de notre prospérité, comme nous allons le découvrir. Mais ça ne doit pas être notre focalisation. En fait, je vais vous enseigner un certain nombre de choses qui vont vous permettre de faire attention à votre mentalité. Vous savez, quand nous naissons de nouveau, et ça c'est quelque chose que vous devez bien comprendre, vous êtes créé d'abord en 3 dimensions. Vous avez une nature spirituelle, c'est là où Jésus habite. Vous avez aussi une âme. L'âme, c'est votre personnalité. Votre âme, c'est vos raisonnements, sont vos sentiments, c'est votre volonté, c'est votre personnalité, voilà, tout simplement. Ce que vous aimez, comment vous pensez, comment vous anticipez les choses, la façon dont vous allez raisonner, etc., etc., ce que vous ressentez. Et vous habitez dans un corps. Le jour où vous avez reçu Jésus comme sauveur personnel, Jésus est venu habiter dans votre nature spirituelle, non pas dans votre âme. Jésus n'habite pas dans votre tête, Jésus n'habite pas dans vos sentiments, il n'habite pas dans vos raisonnements, il n'habite pas dans votre volonté. Mais Jésus habite dans votre nature spirituelle. Et vous avez été sauvé, qui est sauvé ici? Donc, votre esprit a été instantanément recréé. Le jour où vous avez reçu Jésus, il s'est passé un miracle instantané dans votre cœur, dans votre esprit. Et par contre, vos mentalités n'ont pas été changées à ce moment-là. Et la plupart des chrétiens vivent des vies chrétiennes qui sont déréglées par rapport à le standard de vie que Dieu veut leur donner. Vous savez, Dieu a un standard de vie pour chacun d'entre nous. Et très souvent, nous voyons des chrétiens qui ne vivent pas dans ce standard de vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, ils restent dans des mentalités. En fait, les gens sont malades d'abord dans leur mentalité. Il faut comprendre cela. Très souvent, les chrétiens se retrouvent avec des problèmes de maladie dans leur mentalité. Ensuite, leur langue est malade. Leur langue est malade. Et ça amène une chose, c'est qu'ils sont malades dans leur comportement. Et de cela, on peut guérir. C'est pour ça que la Bible va nous dire que la façon dont un homme pense, c'est ce qu'il est. Nous allons découvrir ces choses. Nous allons découvrir des principes de la parole de Dieu qui nous permettent, finalement, quand on comprend bien, c'est de devenir ce que Dieu veut que l'on devienne. Et par rapport aux finances, nous allons découvrir que Dieu veut que nous ayons d'abord une mentalité, ensuite que nous ayons une certaine confession. Nous allons parler de ces choses-là. Et enfin, finalement, que Dieu veut que nous ayons un certain comportement financier. Et ça, ça va beaucoup vous aider à comprendre ce que Dieu veut. Alors, ce mot prospérer, c'est faire un excellent voyage. Alors, on va parler de la prospérité d'une manière générale, mais on va, comme je vous le disais, arriver dans le domaine financier, parce que c'est l'objectif de toute cette série d'enseignements. Donc, on va construire, je vais vous montrer tout un tas de choses. Alors, très souvent, nous entendons cette expression, en fait, il y a deux écoles extrêmes. Vous savez, dans toute vérité de la parole, si vous observez toute vérité de la parole et les enseignements qui sont faits, vous allez découvrir souvent deux extrêmes. Il y a souvent deux extrêmes. Par exemple, il y a des gens pour le baptême du Saint-Esprit, ils vont vous dire, « Ah, le baptême du Saint-Esprit, c'était au temps des apôtres, ça n'existe plus aujourd'hui. » Ça, c'est une extrême. Il y a une autre extrême qui vont vous dire, « Ah, parler en langue, c'est le baptême du Saint-Esprit. » Non, le parler en langue n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est un signe qui accompagne le fait d'être rempli. C'est un signe obligatoire qui fait que ça prouve qu'une personne est remplie du Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui mettent la focalisation seulement sur le parler en langue, et après nous avons des parleurs en langue qui sont charnels. Et on en a beaucoup de ces gens-là. « Oh, rabasatako, rabako !» Et puis, en fait, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se comportent n'importe comment. Vous voyez, parce qu'ils ont focalisé tout sur quoi? Simplement sur l'aspect des langues, qui est juste un signe qui accompagne. Quelque chose qui est très utile, la prière en langue est quelque chose de formidable, mais quand c'est utilisé selon des règles divines. Ok? Et c'est la même chose pour les finances. Dans les finances, vous avez deux écoles. La première école que nous étudierons, c'est la pauvreté. La pauvreté égale humilité. Ça, on l'a entendu des millions de fois. Vous savez, pour être humble, pour marcher vraiment avec Dieu, pour être touché par Dieu, eh bien, il faut être pauvre. Le pauvre, c'est celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Vous voyez, on a entendu ce genre d'enseignement, et certains parmi vous, vous avez été dans ce genre, élevé dans ce genre d'enseignement, et en fait, dans vos mentalités, on vous a toujours dit, un chrétien, de toute façon, il faut, excusez-moi l'expression, il faut qu'il soit bête, imbécile, sans boulot, raté, pauvre, misérable, déprimé, malade, et au moins ça c'est un bon chrétien. Quelle image! Nous allons découvrir que ça n'a rien à voir. Alors maintenant, bien sûr, il y a l'autre côté du fossé. Et l'autre côté du fossé, c'est ce que je ne vous enseignerai pas. Et je vais vous en montrer les travers parce que ça je le dénonce. C'est donne 100 dollars et le Seigneur va t'en donner 100 000. Dun-dun. Dieu est un tiroir-caisse. Il y a juste à ouvrir le tiroir-caisse. Le Seigneur dit qu'ici, il y a 100 personnes qui doivent donner 100 dollars. Non, il faut faire très attention à ça. Je vais vous montrer comment éviter d'être blessé avec les finances. Parce qu'il y a des escrocs dans la rue. Et les escrocs, n'hésitez pas, vous les frappez avec un bâton et si vous cassez le bâton, je vous le rembourserai gratuitement. Écrivez à l'église El Shaddai, je vous le rembourserai gratuitement. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, il faut s'opposer aux escrocs. Amen. Il faut être clair. Des gens qui viennent détruire des vies, il ne faut pas être tendre avec eux. Moi, je ne suis pas tendre avec des faux serviteurs de Dieu qui essayent de faire du mal. Parce qu'après, les gens sont bousillés par ces gens-là. Amen. Et on ne va pas laisser de bonnes personnes se faire bousiller par des gens qui sont mal intentionnés et qui ne sont que là pour aller soutirer de l'argent aux chrétiens. Et ça, ça fait mal. Des fois, il y a des gens blessés. Rien que la semaine dernière, à Bujumbura, je recevais un frère en Christ qui a été blessé, qui était quelqu'un brave, riche, mais qui s'est fait plumer comme un pigeon, bien des fois. Il s'est fait rouler, bien des fois. On lui a soutiré de l'argent. On savait qu'il était riche. Alors, quelqu'un, il était dans une certaine église et on le repérait d'avance. Évidemment, le type qui était là, il commençait à prêcher. Et d'un seul coup, vous, le monsieur à la chemise jaune, le Seigneur dit que vous devez donner une voiture. Bang! Et le gars, il était nouveau converti. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est dans plus aucune église. Blessé. Et c'est difficile de ramener des gens qui ont été blessés. Surtout sous le couvert de l'Évangile. Ça, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, franchement, ça brise mon cœur quand je vois des gens. Quand il y a des gens qui ont des attitudes rebelles, vous savez, qui veulent vraiment, on ne peut rien en tirer, on dit « Ok, pars, et au moins t'es tranquille. » Mais quand il y a des gens qui sont vraiment, qui ont un bon cœur, et qui sont sujets à de mauvais ou de faux serviteurs de Dieu, ça, ça fait mal. Et vis-à-vis des finances, il y a beaucoup d'escroqueries. Il faut dire une chose, il y a beaucoup d'escroqueries. Alors, croyez-moi, je ne vous enseignerai pas le truc qui va changer votre vie financière en 3 points. Ça, ça n'existe pas chez moi. Par contre, je vais vous enseigner des lois spirituelles, des piliers sur lesquels, si vous fondez votre vie financière, vous allez prospérer obligatoirement. C'est ça la différence. Parce que les chrétiens aiment bien une chose. Ils veulent souvent être charnels, ils veulent que le pasteur prie pour eux, et ils veulent que leur situation change instantanément. Et si ça ne change pas, ils iront voir un autre serviteur de Dieu, et ils demanderont la même chose. Et c'est comme ça que nous avons des chrétiens grenouilles qui sautent d'église en église. Parce qu'en fait, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et vous savez, je le dis souvent, et je l'ai encore dit hier, j'étais dans une église hier à Ottawa avec Jérémy, et je le disais encore, les chrétiens remportent tous les trophées, toutes les médailles d'or, tous les concours de l'irresponsabilité. Oh, il n'y a plus d'amen là, pasteur. Mince alors. Ils ne vont pas m'aimer en sortant. Les chrétiens sont souvent comme ça. Ils veulent voir des choses de Dieu sans prendre leurs responsabilités. Donc dans ces enseignements, je vais vous apprendre à prendre vos responsabilités. Parce que l'avantage avec Dieu, c'est que Dieu lui prend toujours ses responsabilités. Dieu honore toujours sa parole. Ça, on le sait. Mais souvent, le chrétien ne voit pas Dieu honorer sa parole parce que le chrétien ne se met pas en position pour que Dieu honore sa parole. Et dans les finances, il y a un certain nombre de choses qu'il faut connaître. Il y a un certain nombre de piliers qu'il faut mettre dans nos vies. Et nous allons découvrir 5 piliers. Quels sont ces 5 piliers que nous allons couvrir? D'abord, c'est la connaissance. La connaissance. On va en parler aujourd'hui. Et on va découvrir que la connaissance va nous amener à un changement de mentalité. Ça, c'est la première chose que nous étudierons. Ensuite, on fera une étude sur la foi. La foi par rapport aux finances. Et là, c'est pareil. Je vous montrerai quoi faire, comment faire, pourquoi le faire. Et on verra ce qu'est la foi et ce que n'est pas la foi. Et je vous montrerai comment éviter les abus, des choses typiques qu'on fait et où on se trompe. Ensuite, nous verrons la loi de la semence et de la récolte. La loi de la semence et de la récolte. Ça, souvent, les prédicateurs sont très forts là-dessus. Non, mais c'est clair, il faut être clair. Vous savez, moi, je suis prédicateur. Mais je dénonce les abus aussi. Parce que ça, c'est pas normal. Il y a vraiment des gens, vous savez, ils n'insistent que sur cet aspect. Nous verrons que c'est un aspect important, mais ce n'est pas le seul aspect, loin de là. Ensuite, nous verrons l'excellence au travail. Ah ah. Parce que ça aussi, c'est un problème qu'on rencontre chez beaucoup de chrétiens. Nous découvrirons ça. L'excellence au travail. Et puis finalement, nous verrons la gestion de nos finances. Là, on en parlera aussi. On parlera des dettes. Ah, les dettes. On va parler des dettes. Vous savez ce qu'il faut faire pour détruire une église? Il faut que les chrétiens se prêtent de l'argent ensemble. Vous avez 50 chrétiens qui prêtent de l'argent à 50 ou 200 chrétiens, et vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous aurez une division dans l'église où il y aura la moitié de l'église qui va partir. Ça, c'est la meilleure recette. Enfin, une des meilleures recettes. Donc là aussi, il faut être très prudent par rapport à ça. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, nous allons voir toutes ces choses. Et nous allons les étudier petit à petit. Donc, je vais vous construire. Donc, c'est pour ça que dans ce séminaire, il faut revenir. Il faut prendre chaque chose. Parce que chaque pilier a son importance. Chaque pilier a son utilité. Et quand j'ai vraiment étudié sur les finances, et ce sont des enseignements éprouvés. Nous, à l'église à Bujumbura, nous avons acheté récemment un bâtiment qui nous a coûté 700 000 dollars. Nous habitons le 5e pays, je ne sais pas si c'est le 3e ou le 5e aujourd'hui, pays le plus pauvre du monde. Et Dieu nous a bénis d'une façon très particulière dans le domaine des finances. J'ai constamment des témoignages de gens qui sont touchés dans leurs finances, qui voient des choses dans leurs finances. Des businessmen, des gens qui n'avaient rien. Par exemple, j'ai mon constructeur. La personne qui termine, parce qu'on a acheté un bâtiment qu'on est en train de terminer, qui vaut plus d'un million de dollars d'ailleurs au jour d'aujourd'hui. Et en fait, cette personne, elle me fait tous les travaux, tout l'engineering des travaux, gratuitement. Je n'ai pas dit qu'elle me fait tous les travaux gratuitement, j'ai dit l'engineering des travaux. Il me donne ses meilleurs ouvriers, il me donne ses ingénieurs, il me donne ses chefs de chantier. Je paye simplement ces gens-là au jour le jour. Je paye les matériaux et le reste, ils s'en occupent à 100%. Ça veut dire que c'est comme si c'était moi qui avais mon entreprise et qui faisais mon église. Et cette personne fait cela pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a démarré avec rien. Quand il est venu dans l'église, il avait du mal à manger. Aujourd'hui, c'est un patron et il va construire un hôtel à 5 étoiles. Un très bel hôtel au bord de la plage à Bujumbura. C'est les tout derniers contrats qu'il a eus très récemment. Entre-temps, il a construit un immeuble à 4 niveaux dans une des villes, la deuxième ville du pays, etc. Il a commencé avec rien, mais il savait qu'il y avait la parole. Et il a démarré. Des témoignages comme ça, je pourrais vous en donner constamment. On a vu nos chrétiens être touchés d'une façon spéciale en appliquant des principes. Les principes de la parole, en ayant un bon cœur, en fonctionnant étape après étape. Il faut que vous compreniez une chose importante dans votre vie chrétienne. Bon, c'est vrai, si vous êtes malade, quelqu'un va prier pour vous, ou vous marchez dans la foi, vous allez voir la guérison. Ça, en général, c'est une période très courte. Mais dans le domaine des finances, cela demande un certain temps pour réellement prospérer selon Dieu. Nous verrons la différence entre la prospérité selon le monde et la prospérité selon Dieu. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que les chrétiens ont du mal à comprendre. Les chrétiens souvent jalousent les inconvertis. Qui n'a jamais jalousé un inconverti pour sa belle bagnole, sa belle maison et son... On a tous dit, ah, oh, tu as vu ça? Ah, ouais, c'est un païen. Ah, oui, d'accord, c'est un païen, oui. Mais il s'est acheté ça, il y a peut-être des raisons. On ne devient pas prospère par hasard. La bénédiction de Dieu est quelque chose que l'on déclenche. La faveur de Dieu est quelque chose que tu peux déclencher dans ta vie, où que tu sois. Je suis de ceux qui croient fermement que ce n'est pas d'où nous venons qui est important, c'est où nous allons. Et ça c'est super. Ça, c'est quelque chose qui vous aidera beaucoup. Si vous voulez aller quelque part avec Dieu, ce n'est pas compliqué, vous avez la parole de Dieu. Il y a les principes divins. Alors, nous allons étudier la mentalité, parce que la mentalité fait partie de ce que j'appellerais la connaissance. Et il y a vraiment des choses que nous devons comprendre par rapport aux finances. Donc nous allons étudier tout ce qui va être mentalité. Mentalité, mentalité, mentalité. Nous allons découvrir que la vraie prospérité découle d'abord d'une mentalité. D'une mentalité. Et quand nous parlons de prospérité, je vous rappelle... Ce n'est pas seulement financièrement. La prospérité va être une mentalité. Vous savez, avec l'argent, nous avons une relation. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il y a des gens qui aiment l'argent. Il y a des gens qui voient l'argent comme un instrument pour bénir quelqu'un. Tu peux voir l'argent peut-être comme un instrument de destruction de tes ennemis. Il y a des gens qui voient ça comme ça. Il y a des pays qui ont beaucoup d'argent et qui pensent, par exemple, on voit certains pays de certaines religions que je nommerai pas, qui ne veulent qu'une chose, c'est par exemple détruire Israël. On le voit, par exemple, parce qu'ils ont de l'argent. Ils se disent, aujourd'hui, on va faire ça, donc on va acheter des armes et on va tout faire. Et ils prononcent ouvertement le désir de vouloir détruire Israël, par exemple. Donc vous voyez, à cause de quoi? Parce qu'ils ont de l'argent. Vous allez découvrir que l'argent a une puissance. L'argent a une puissance et tu as une relation par rapport à cette puissance. Et ça, il va falloir que tu le découvres et que tu comprennes quel type de relation Dieu veut que tu aies avec l'argent. Parce que ça, c'est très très important. Moi, j'ai vu des chrétiens être les meilleurs amis du monde et devenir les pires ennemis du monde à cause de l'argent. J'ai vu des chrétiens mettre en prison d'autres chrétiens à cause de l'argent. J'ai vu des familles détruites à cause de l'argent. Vous savez que la moitié des divorces, on le dit, enfin la cause la plus importante des divorces, c'est dû à quoi? Au problème d'argent dans les couples. Donc ça veut dire la relation que tu vas avoir avec l'argent va être quelque chose de très important. Et l'argent est quelque chose d'incontournable. Vous savez, souvent les chrétiens ne veulent pas parler d'argent. Parce qu'on dit l'argent c'est sale. Non, l'argent n'est pas sale. L'argent, tu vas découvrir, est un instrument merveilleux si tu sais l'utiliser. Et il va falloir que tu comprennes cela. Ça fait partie de ta mentalité. La mentalité que tu vas devoir acquérir dans cette relation que tu as avec l'argent. Parce que l'argent, qui dépense jamais d'argent? Est-ce qu'on ne dépense pas de l'argent tous les jours? Bien sûr, on doit en gagner aussi tous les jours. L'argent est quelque chose d'incontournable. Vous savez, il y a des gens, des personnes qui rêvent d'un monde idyllique, d'un monde parfait, et il y a certains, des gens qui ont sorti des bêtises. La bêtise suivante en disant, si on enlevait l'argent de toute la terre et qu'on échangeait simplement du riz contre du sucre, etc., des denrées contre, etc., tous les problèmes des hommes seraient résolus, il n'y aurait plus de guerre. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Les gens ont une relation avec les choses. Et cette relation doit être sanctifiée. En fait, il va falloir que tu découvres quelle est la mentalité de Dieu par rapport à l'argent. Quand tu commences à découvrir comment Dieu voit les finances, et même dans les églises locales, c'est la même chose. C'est strictement la même chose. La plupart des pasteurs n'ont pas une bonne relation avec l'argent. Et ça leur crée du discrédit dans leur ministère. Certains font n'importe quoi. Ils ont un don et ils font n'importe quoi avec. Ou ils commencent à mélanger leur argent personnel avec le ministère, etc. On voit souvent. Et ils font des erreurs. Et ils ne comprennent pas que Dieu nous a donné. En tant que prédicateur, nous avons un outil. Cet outil, il faut le développer. C'est l'outil, il faut savoir s'en servir. Donc nous allons découvrir pourquoi l'argent existe. À quoi doit servir l'argent? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on ait comme mentalité par rapport à l'argent? Qu'est-ce que Jésus a réalisé pour nous à la croix du calvaire? Donc, il y a quelque chose, il y a des choses que nous allons découvrir de plus en plus, parce que quand nous prenons cette mentalité divine, eh bien, nous allons découvrir, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre, quand tu commences à entrer dans les mentalités de Dieu, automatiquement, tu vois les fruits de cette mentalité, quand tu persévères dans cette mentalité. La plupart du temps, ce qui nous bloque, c'est nos façons de voir les choses. Quand tu n'ajustes pas tes façons de voir les choses comme Dieu les voit, la perception que tu as, si tu as une mauvaise perception de l'argent, si tu ne vois pas l'argent comme un instrument, et on verra quel type d'instrument ça doit être entre tes mains, un instrument sanctifié, dans des mains sanctifiées, eh bien tu feras une immense erreur que beaucoup de gens font. Et très souvent, nous les chrétiens, nous nous retrouvons avec des problèmes d'argent. Des églises entières se retrouvent avec des problèmes d'argent. Pourquoi? Parce qu'elles ne comprennent pas que l'argent est un instrument. L'argent n'est pas quelque chose que nous devons convoiter. L'argent est quelque chose que nous devons produire avec abondance. Et certaines personnes, vous êtes appelées à faire du business à des hauteurs extrêmes, parce que Dieu vous appelle à cela. D'autres personnes sont appelées à la prédication, d'autres personnes sont appelées dans tel et tel domaine de la société, mais il y a des gens qui sont appelés à produire en ultra-abondance des finances. Il y a un appel pour chacun dans ce domaine-là. Mais en tout cas, chacun d'entre nous, nous devons produire des finances. Alors, revenons au commencement de tout. Genèse chapitre 1, verset 26. On connaît très bien cette histoire. Et la Bible nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, verset 27. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, et il les créa. Il les créa. Dieu les bénit, verset 28. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Donc, Dieu va placer l'homme, nous le savons, hein, je ne vais pas revenir sur cette histoire trop longuement, mais Dieu va placer l'homme dans un environnement au départ qui est absolument parfait. C'est le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, vous savez, Adam et Ève avaient, je dirais, un environnement de vie exceptionnel. Ils voyaient Dieu, parce qu'ils voyaient dans le monde spirituel, leur corps n'était pas mortel. ils avaient une provision parfaite. En fait, dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu va créer l'homme, il n'y avait pas de manque. Le mot manque n'existait pas. Le mot fatigue n'existait pas. Le mot maladie n'existait pas. Le mot pauvreté n'existait pas. Quand Dieu va créer l'homme et la femme, rien de tout ce qui est négatif que tu peux voir avec tes yeux aujourd'hui n'existait. L'environnement divin pour l'homme était quelque chose de parfait. Le manque n'a jamais existé dans la vie d'Adam et Ève avant leur péché. Quand ils ont péché, là, ils ont changé de royaume. Ils sont passés du royaume de Dieu dans le royaume des ténèbres. Ils sont devenus la propriété de Satan. Mais il va se passer aussi autre chose, sur lequel je veux insister. Je veux vous donner un regard général sur les finances et sur la terre. On va en discuter. Je suis obligé de revenir au commencement des commencements. Je le fais exprès. Je ne veux pas trop insister sur cet aspect-là, mais après je vais vous amener justement à comprendre quelque chose d'important. Adam et Ève étaient dans un environnement tellement exceptionnel que nous sommes nés dans un environnement qui n'est pas du tout exceptionnel, qui s'oppose à tout ce que Dieu a fait. Et il y a des raisons à cela. Et c'est pour ça que nous avons du mal parfois dans nos mentalités à nous imaginer comment Dieu voudrait qu'on soit. On a du mal à cela. Parce que si tu es né, par exemple, dans une famille pauvre, si tu as souffert la pauvreté toute ta vie, le manque, ou tu as vraiment été tout le temps juste financièrement, tu es né dans un environnement où tes parents t'ont toujours dit « fais attention, faut pas acheter ça, il n'y a plus d'argent à la maison, etc. etc. » tu as été élevé dans une mentalité qui a été forgée. Autour de toi, peut-être, tu as connu certaines difficultés. Vous savez, par exemple, au Burundi, j'enseigne souvent la chose suivante. Je dis, la mentalité de la plupart des Burundais, c'est quoi? C'est de dire, mes grands-parents étaient pauvres, mon père était pauvre, je suis pauvre, mes enfants sont pauvres et mes petits-enfants sont pauvres. Ça, c'est souvent une mentalité que les gens ont. Pourquoi? Parce qu'ils sont au départ moulés dans quelque chose qui est faux, qui est une conséquence de ce qu'Adam et Ève ont fait. Mais quand Adam et Ève ont été créé, l'environnement était parfait. Dans la pensée de Dieu, quand il a planté ce jardin et qu'il a mis Adam et Ève, Dieu les a créés à son image. Dans la pensée de Dieu, jamais le mot pauvreté n'est venu quand il a créé Adam et Ève. Le mot manque n'existait pas, le mot dette n'existait pas, le mot de non-provision n'existait pas. Parce que tout était dans un environnement parfait, avec des gens parfaits, entourés par un Dieu parfait. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. Ils vont pécher. Et là, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Parce que financièrement, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Les chrétiens doivent se réveiller financièrement. Il doit y avoir un réveil financier parmi les chrétiens. Dieu veut réveiller son peuple. Et je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Mais encore faut-il avoir les bonnes motivations. Ne pas faire n'importe quoi. Je vous montrerai que vous pouvez avoir la plus grande vision, le plus grand appel de la part de Dieu. Si vous n'avez pas un dollar pour le réaliser, vous serez enterré avec votre appel. Et vous savez que les plus grandes visions, on les trouve dans les cimetières. Elles ont été enterrées avec ceux qui les ont reçues, la plupart du temps. Vous pouvez dire, Dieu m'a appelé à faire ça, Dieu m'a montré ceci, Dieu cela, même en tant qu'église locale. Parce que moi, je suis un fervent défenseur de l'église locale et de l'autorité pastorale. Je suis venu pour votre église, sous l'autorité de votre pasteur. Parce que ce que je veux vous aider à faire, c'est aller plus haut financièrement. Nous, dans notre église, nous avons franchi des étapes. Et je vous dis, au Burundi, les gens regardent notre église et disent, mais waouh, comment ils ont fait. Et ils savent qu'on n'a pas eu d'argent d'extérieur. Ils savent que nous avons été autofinancés. Ils savent que tout ce qu'ils voient dans l'église, ça vient de notre argent. À 98% près. Nous avons une faveur au niveau d'une banque qu'aucune église n'a eue. La banque nous a prêté plus de 350 000 dollars. Ça fait confiance. Et la deuxième fois où j'ai négocié quelque chose, le directeur général de la banque, qui n'est pas sauvé, a dit, Mais pourquoi ils ont demandé si peu? On aurait pu leur accorder plus, beaucoup plus. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a des principes financiers. Je pourrais vous raconter, j'espère qu'on aura le temps de faire ça, le témoignage de voir comment Dieu a ouvert des portes surnaturelles pour qu'on puisse arriver là où on est arrivé. Et encore, c'est peu de choses. Je le dis souvent, c'est très peu de choses. C'est peu de choses. Nous sommes en train de terminer un bâtiment qui va contenir 2500 places et qui sera le bâtiment le plus moderne du pays, avec de la moquette partout, avec une sonorisation qu'on appelle les line arrays, c'est-à-dire des espèces de trucs suspendus qui coûtent une fortune, et ça sera le bâtiment le plus classe qu'on aura au Burundi. Parce que je crois une chose, c'est que l'Église de Dieu doit comprendre son rôle. Elle doit comprendre son rôle. Et vous pouvez monter régulièrement. Monter, 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 monter. Vous savez, souvent les gens attendent une chose, et les églises attendent une chose. Ils disent, ah, on va prier pour qu'on nous fasse un don d'un million de dollars. Parce que j'ai entendu un pasteur qui m'a dit, un jour il a prié, il a reçu un million de dollars. Oui, mais il ne vous a pas raconté que les 2,999,999 autres pasteurs n'ont jamais reçu un million de dollars. Donc ça arrive, c'est vrai, gloire à Dieu pour ce genre de miracle, mais ce n'est pas très courant. Alors il y a des pasteurs qui disent, ah, pourquoi ça ne nous arrive pas à nous? Ça ne nous arrive pas à nous, peu importe. Dieu a ses voies pour nous amener à nos objectifs, ce qu'il a mis dans notre cœur. Et si vous avez un bâtiment à acheter, parce que le pasteur Foufi a cette vision-là, vous allez l'acquérir et vous allez passer les étapes par lesquelles vous devez passer. Mais sachez, ça ne se passera pas par hasard. Vous devez grandir financièrement. Vous devez grandir au niveau des âmes perdues, vous devez grandir au niveau du nombre de personnes qui viennent dans votre église, mais vous devez grandir financièrement. C'est-à-dire prospérer. Et le reflet de la prospérité d'une église, c'est le reflet de quoi? C'est le reflet de chaque chrétien, chaque personne d'entre vous. Si vous prospérez, l'église prospère. Amen. Et on gagne en influence, parce que nous allons parler de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous savons que Adam et Ève vont pécher. Alors souvent on voit l'histoire de la pomme, etc. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Le jour où Adam et Ève vont accepter de pécher, il va se passer quelque chose. Il va se passer un transfert de gestion. Ah, comprenez bien ce principe ici. Très, très important. Très important. Vous devez comprendre que Dieu est le propriétaire de la terre. Là où vous mettez vos pieds sur la propriété de Dieu. Adam était le gestionnaire de la propriété de Dieu. Et nous, ses descendants, nous aurions dû être les gestionnaires de la propriété de Dieu selon les lois divines. Mais ce qui s'est passé, c'est que Adam et Ève ont signé un contrat de gestion et de location au diable sur la gestion. Je dis bien la gestion, je n'ai pas dit la propriété. Faites bien attention à ça. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Vous devez comprendre ces choses. Parce que si vous ne les comprenez pas, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin à propos de la mentalité. Parce que quand on parle de prospérité, c'est faire un bon voyage dans cette vie. Et souvent, les chrétiens font un mauvais voyage. Certains d'entre vous, peut-être, que vous voyagez dans cette vie en vous disant « Vivement le ciel, parce que j'en ai ras-le-bol de tous ces fardeaux. » Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui marchent comme ça. Et Dieu ne veut pas que nous passions notre vie avec douleur, fardeau, difficulté. Il y a un moment où tu dois percer. Il y a un moment où les choses doivent changer. Mais là encore, les gens sont bourrés d'illusions, ils veulent avoir le petit truc qui va d'un seul coup changer leur vie sans vouloir prendre leurs responsabilités. Et ça, ça ne marche pas avec Dieu. Tu dois prendre tes responsabilités, comprendre pourquoi, finalement, ta vision des finances est une vision qui n'est pas bonne. Et tu changes ta vision des finances, tu l'accordes avec la parole de Dieu, tu commences à connaître les principes divins, tu les mets en action et le fruit sera entre autres ta prospérité financière. Ce n'est pas compliqué, mais il faut le comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où Adam et Ève ont, ont péché, eh bien, ils ont donné ce contrat de gestion au diable sur la terre. Regardez, frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Nous sommes aujourd'hui dans le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité. Il y a quelques années, il y a des banques qui sont tombées, des banques américaines. on a fait des grands scandales et on a mis un certain nombre de ces personnes aujourd'hui en prison en disant c'est terrible, c'est à cause de ces gens-là que l'économie mondiale est tombée. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, on vit dans un monde où il y a le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité et les chrétiens s'assoient en disant bah oui, c'est pas grave. Les païens construisent des trucs incroyables. Les païens gèrent. Attendez, d'où vient l'essence que nous mettons dans notre voiture ? Du pétrole. Le pétrole est pompé où ? Est-ce qu'il descend du ciel comme de la pluie ? Non. Il est dans le sol. Il est dans la propriété de qui ? Nous sommes les fils de qui ? Qui en profite du pétrole ? La plupart du temps, c'est quoi ? Peut-être que vous avez des actions dans BP ou je ne sais qui, chez je ne sais qui, mais en général, ce ne sont pas les chrétiens. Donc imaginez-vous, le pétrole sert à quoi ? À financer des trucs, toutes sortes de choses que les païens contrôlent. Et les chrétiens sont là, en train de dire, la prospérité, non, c'est pas bien que les chrétiens restent avec des petites finances. Si on a du mal à construire l'église pendant 10 ans, ben, c'est normal. Ah bon ? Non, ce n'est pas normal. Nous faisons de graves erreurs, frères et sœurs. Il n'y a rien qui nous scandale. Ceux qui possèdent le plus de choses dans ce monde, ce sont les païens, malheureusement. Parce que les chrétiens ne se sont pas levés en prenant leurs droits et en comprenant qui ils étaient et qu'est-ce qu'ils devaient faire dans ce monde. Et la plupart des chrétiens sont là en train de se bagarrer, en train de se poser la question, est-ce que Dieu veut vraiment me bénir financièrement ? Et c'est triste de voir ça. Les diamants du Grand Congo, il y a combien de Congolais ici ? Il y en a des Congolais ici, oh, il y en a plein. Vos diamants, il y a des guerres civiles là-bas, pourquoi ? Ils sont tout le temps en train de se battre au Congo. Pourquoi ? Parce qu'il y a des richesses. Les pays où il y a le plus de richesses naturelles, en général, c'est là où il y a le plus de batailles entre les gens. Vous avez remarqué ? Qui a mis les richesses naturelles ? Dieu. Vous êtes d'accord ? Qui se bagarre pour les richesses naturelles ? Les païens. Pourtant, ils sont en train de piller la propriété de notre Père. Oh. C'est exact. C'est ce qui se passe tous les jours. Chaque mine qui est exploitée, chaque pétrole qui baril de pétrole qui sort de la terre, c'est de la propriété de notre Père. Regardez les plus grandes richesses de ce monde. Qu'est-ce qui génère les plus grandes richesses de ce monde ? Ce sont les ressources naturelles. Ce sont les ressources naturelles. Regardez les bourses internationales, vous verrez les cotations. L'or. L'or vient d'où ? La terre. De notre Père. Réfléchissez à cela. Nous sommes devant le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité et les chrétiens disent tous « Amen, c'est pas grave. Nous, on va se débrouiller comme on peut. Commence à réfléchir sur ça. Médite sur ça. Commence à penser que toi aussi, tu peux faire quelque chose par rapport à ça. Parce que si le corps de Christ se lève et dit « Ça suffit », ça va être nous qui allons posséder ce genre de choses. Nous allons créer ces richesses. » Là, les choses vont commencer à changer. Plutôt que de se bagarrer pour des trucs stupides. Vous savez, souvent, il y a des petites guéguerres, soit dans les églises ou soit entre les églises, parce que les gens s'occupent de futilité. Et le diable est très content dans ces histoires-là. Mais il est en train de danser. Allez, battez-vous les pasteurs. Allez, bagarrez-vous. On verra qui va gagner, qui est le plus fort. Qui va mettre KO l'autre. Vous voyez ? Et en fait, pourquoi ? On est occupé à faire des choses alors que les païens sont en train d'aspirer les richesses de ce monde. Ils sont en train d'aspirer les richesses de ce monde. Et puis après, ils vont vous dire, mais pasteur Fofi, vous voulez mettre une église dans cette partie de la ville ? Mais nous ne sommes pas d'accord, pasteur Fofi. Nous vous interdisons. Et alors, pasteur Fofi est obligé de se mettre à genoux en disant à son église, vous savez, on nous a dit ça, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'on manque d'influence. Pasteur Fofi, si tu avais 50 millionnaires ou milliardaires ici, crois-moi que le maire de la ville dirait « Pasteur Fofi, vous désirez un immense territoire pour votre église. Vous avez 50 millions de dollars cash. La banque, le banquier arriverait. Pasteur Fofi, bienvenue. Pasteur, asseyez-vous, Pasteur Fofi. » Vous voyez ce que je veux dire ? Soyons clairs, soyons clairs, soyons clairs. Soyons clairs. L'argent est une puissance. Alors arrêtons de jouer la fausse humilité. Ça suffit. Il y en a vraiment assez de ce genre de discours. Et ça crée des problèmes. Quand vous n'avez aucune puissance financière, vous n'avez aucune influence devant les païens. Les païens ne vous respecteront pas si vous n'avez pas de puissance financière. Les païens se moquent de vous quand vous n'avez pas de puissance financière. Et la puissance financière se crée. Mais elle ne se créera pas du jour au lendemain. C'est pour ça que je tiens à vous l'annoncer à l'avance. Mais vous devez avoir ce désir-là. Mais un désir qui va être sanctifié. Ok, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas du genre à vous raconter des trucs. J'ai vu des gens tomber avec l'argent, gravement. Je le dis des fois dans des églises. Je leur dis, si on vous donnait à tous une voiture, une belle maison et un gros compte en banque, vous ne viendrez même plus le dimanche matin au culte. Soyons clairs. Ça, c'est un problème de relation avec l'argent. Soyons clairs. C'est un problème de relation avec l'argent. Mais l'argent a une puissance. Les églises doivent être puissantes. On pourrait peut-être nous dire, ah, ces gens-là ne pensent qu'à l'argent. Non, on ne pense pas qu'à l'argent. Mais on sait utiliser un outil. Un puissant outil. Vous savez, souvent, quand une église commence à monter, on va dire, ah, moi, à l'église El Shaddai, j'entends des commentaires des fois dans la ville qui me reviennent. Vous savez, les pasteurs, ils ont des oreilles partout. Pourtant, ils ne traînent pas leurs oreilles partout, mais tout revient dans leurs oreilles. Faites attention à ce que vous dites sur un pasteur, parce que ça lui reviendra dans ses oreilles. Sur votre pasteur, faites gaffe. Et les gens disent, ah, pour être à l'église El Shaddai à Bujumbura, il faut avoir une bagnole. Il faut avoir une voiture. Ben, je dis, oui, tant mieux, amen, il faut avoir une bagnole. Enfin, c'est pas une exigence. Mais les gens qui viennent, ils sont tellement bénis qu'au bout d'un moment, ils ont des voitures. Vous voyez, pourquoi? Parce que c'est des conséquences. Ce sont des conséquences. Donc, il faut vraiment comprendre. L'argent est un outil, mon frère, ma soeur. Si vous voulez avoir une puissance et que les païens disent « Ouh là, ou ces gens-là », il vous faut des finances. Il vous faut des finances. Et ce n'est pas pour vous. C'est simplement, vous représentez qui? Le nom du Seigneur. Quand il y a un bon cœur derrière un ministère, il faut que dans ce ministère, il y ait une ultra-prospérité. Sinon, vous pouvez avoir des milliers. Moi, je vois des fois... Tiens, au Rwanda, il y a des Rwandais parmi nous? Bon, ok, il y a des Rwandais. Au Rwanda, il y a eu un pasteur comme ça. Franchement, je suis triste pour lui. C'est un pasteur qui est venu me voir d'ailleurs, pour voir notre bâtiment récemment. Il a une église de plusieurs milliers de personnes. Et ce pasteur a eu un problème, c'est qu'il a construit, et il y a un mur qu'il a construit qui s'est cassé la figure. Et le gouvernement rwandais lui a fait des histoires. Et à tel point qu'ils l'ont bloqué dans sa construction, aujourd'hui. Et ils sont obligés de se réunir ailleurs. Ils n'avaient plus l'autorisation de se réunir dans l'endroit où ils se réunissaient d'habitude. Ils étaient en train de construire. Pourquoi? S'il avait eu $1 million ou $2 millions, il aurait fait construire. Et là, il était obligé, vous savez, le pasteur qui est là, il est en train de voir chaque brique qui est en train de monter sur son mur. Il est en train de suivre tous les travaux parce que, bah, il est obligé d'économiser de l'argent. Voilà. Et souvent, nous, les pasteurs, on se retrouve bloqués parce que le peuple ne crée pas assez de finances. Amen. Amen. Comprenez que l'argent a de l'influence. Que l'argent a de l'influence. Regardons le psaume 1. Maintenant, nous allons parler, que vous avez compris, le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité et qu'il faut vous insurger contre ces choses. Nous allons voir à propos de la productivité. Il y a quelque chose que vous devez connaître. On va parler de productivité et on va parler de stérilité. Mais peut-être pas dans le domaine dans lequel vous avez l'habitude d'en parler. Alors, la Bible nous dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Donc la parole, si vous préférez. Quand vous voyez la loi dans l'Ancien Testament, vous dites la parole de Dieu. « Et qui médite sa loi jour et nuit. » Regardez bien, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait réussit. » Le mot réussir, ça veut dire prospérer. C'est la même racine en hébreu. Ça veut dire prospérer. Mais là, où j'aimerais insister, c'est sur le fait que la Bible nous dit qu'il est comme. Il est comme, dans la Bible, c'est une comparaison. Ok ? Une comparaison, c'est-à-dire que Dieu utilise une image pour nous montrer, en fait, pour nous expliquer des réalités spirituelles. Il y a bien des passages de la parole de Dieu qui montrent que nous sommes comme des arbres. Comme des arbres. Sache une chose, tu es comparé dans la parole de Dieu à un arbre qui est planté. Un arbre qui est planté. Qui est planté. Cette image est très forte dans la parole de Dieu. Et donc, tu as ton jardin à cultiver pour que cet arbre puisse s'épanouir. Donc, prospérer. Porter ses fruits. dans la vie spirituelle, tu dois porter des fruits. Alors souvent, on va dire porter du fruit, c'est bon, amener des âmes au Seigneur. Oui, c'est une façon de porter du fruit, mais ce n'est pas la seule. Porter du fruit, c'est dans ta relation avec Dieu. C'est aussi relationnellement. Il y a des gens qui sont stériles dans leur relation. Ils sont là, à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, ça se termine mal. C'est une catastrophe. Ce sont des gens qui ont un problème de mentalité, qui sont stériles relationnellement. On parle de la stérilité de la femme. Souvent, quand on parle de stérilité, on parle de ça. Mais je vais vous dire une chose, il y a une autre stérilité sur laquelle on va parler, c'est la stérilité financière. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont stériles financièrement, qui ne produisent pas financièrement. Et Dieu t'appelle à être producteur, être un producteur dans tous les domaines. Beaucoup de gens se cachent derrière leur vie de prière, et quand on regarde les fruits, on a du mal à en trouver. La prière a son rôle, mais la prière ne fera pas tout dans votre vie. Faites attention à cela. Il y a la prière, mais il y a aussi l'action. Et il y a la réalisation. Il y a le fait de porter des fruits. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont stériles financièrement, et les gens, pas mal de chrétiens super spirituels qui disent que Dieu leur a dit d'arrêter leur boulot. Ah, ça, je me fâche contre ça. Parce que nous sommes appelés à produire des finances. Nous sommes appelés à produire des finances. Ce n'est pas la seule chose, mais une des choses que nous devons produire, c'est des finances. La Bible nous dit que Dieu va bénir le travail de nos mains. Si tu mets ta main nulle part, Dieu ne pourra pas bénir. C'est très clair. Et il y a des chrétiens sous le couvert de la spiritualité, ils ne font rien et ne veulent absolument rien faire. Dieu nous compare à des arbres. C'est vraiment la parole de Dieu. Et il faut faire extrêmement attention parce qu'un arbre, va donner son fruit en son temps. C'est ce que la Bible nous dit ici. Regardez au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, le symbole de l'esprit, symbole de la vie de Dieu, bien sûr. Mais regardez bien ici ce qu'il est dit, qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Il y a un temps, vous savez, où l'arbre se fortifie, où il prépare à porter, se prépare à porter du fruit. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Si vous plantez un arbre fruitier dans votre jardin, peut-être que la première année, il va porter quasiment aucun fruit. Ou peut-être un petit fruit, et puis bon, ça va être tout. Par contre, la deuxième année, il devra porter plus de fruits. La troisième année, il devra porter encore plus de fruits. Parce que si tu plantes un arbre fruitier, ton désir, c'est d'avoir quoi ? Des fruits. Des fruits. Et il va porter son fruit en sa saison. Il y a un temps pour acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour mettre en pratique la parole de Dieu. Mais il y a aussi un temps pour quoi ? Un temps pour porter du fruit. Il doit y avoir du fruit que tu dois porter. Financièrement, tu dois avoir une croissance. Une croissance. Vous savez la différence entre un miracle et une bénédiction ? C'est très simple. Un miracle, parce que souvent les chrétiens veulent un miracle financier. Ils disent, voilà, j'ai un gros problème financier, j'ai un huissier, ou je ne sais pas comment vous les appelez ici, enfin, ou un avocat ou quelque chose soit qui me poursuit parce que j'ai tel problème financier, etc., etc. Et j'ai besoin d'une prière. Ok, Dieu intervient surnaturellement et tu es content. Tu as besoin d'un miracle lorsque tu es en train de couler dans une situation de crise. Un miracle, c'est une situation de crise. Et tu dis bien la parole de Dieu. Jésus faisait des miracles, pourquoi ? Dans des situations de crise. Quand Pierre va pêcher tous ses poissons, hein, parce qu'il a prêté la barque de Jésus, à Jésus, pardon, eh bien, il n'avait rien pêché pendant toute la nuit. Il n'avait rien à amener chez lui pour manger. Il était dans une situation de crise. Quand Naaman a été guéri, eh bien, il était dans une situation de crise. Vous avez besoin d'un miracle quand vous êtes dans une situation de crise. Par contre, vous devez fonctionner avec la bénédiction qui va augmenter jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. C'est là où vous allez porter de plus en plus de fruits. Vous n'allez pas être stérile, mais de plus en plus, vous allez porter les fruits que Dieu veut que vous portiez. Regardons au chapitre 92 de Psaume aussi, il y a une très belle analogie. Psaume 92, au verset 15. Vous savez, il y a des temps dans notre vie. Il y a des temps, il y a des saisons. Ça aussi, on pourrait faire un enseignement là-dessus. Il y a des saisons particulières. Vous savez, souvent, les premières saisons des chrétiens, c'est quoi? C'est l'ignorance. Ils sont là, ils sont en train de tourner en rond dans leur vie spirituelle. Ils sont ce qu'on appelle en train de patauger. On ne comprend rien, on a juste reçu le Seigneur. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On prie ce qu'on a entendu prier à l'église. On prie parce qu'on a quelqu'un qui nous a amené au Seigneur, on l'a entendu prier comme ça, donc on va prier comme ça. On ne connaît rien au royaume de Dieu. Et c'est dans cette saison, nous pataugeons. Nous sommes là avec nos problèmes, nous ne savons pas trop quoi faire, comment nous débrouiller. On va demander la prière à l'un, la prière à l'autre. Dieu va intervenir parce que nous sommes des petits bébés spirituels et qu'il a besoin de nous montrer qu'il est là, qu'il nous aime, qu'il nous tient la main, qu'il est bien présent dans nos vies. Mais cette saison-là doit passer dans ta vie, mon frère, ma sœur. Il y a un temps où tu dois acquérir la connaissance des principes du royaume de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien, tu vas te retrouver à ne jamais porter de fruits. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Les chrétiens, excusez-moi, mais ils sont, en général, ils souffrent de pauvreté et de manque. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes financiers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde entier. Je vais sur, en général, 3 continents différents, en Afrique, en Europe et ici, en Amérique du Nord. Je m'aperçois que les problèmes sont relativement similaires dans le corps de Christ. Beaucoup de chrétiens souffrent de manque de finances, de chômage, de manque de boulot, de production financière. Un peu partout dans le monde. Des fois, je suis choqué. Des fois, j'arrive dans des endroits où le niveau de vie des païens est bien supérieur au niveau de vie des chrétiens. Et je suis désolé, la Bible nous dit, dans Malachie, qu'on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Et il est bien de le savoir, mais il y a un temps où ça doit porter du fruit dans ta vie, mon frère, ma sœur. Si le païen qui est à côté de chez toi vit une meilleure vie que toi, pendant 10 ans, alors que tu habites à côté de lui, c'est que tu as un problème. Sois clair, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un manque de compréhension, et je ne dis pas ça pour condamner, je dis simplement ça pour que nous puissions réaliser les choses, vous voyez. L'enseignement nous ouvre les yeux pour que nous provoquer au changement, vous voyez. Et à ce moment-là, on découvre et on se dit, mais effectivement, pourquoi est-ce que j'accepte ça? Un jour, le Seigneur m'a donné cette phrase, de ne pas accepter l'inacceptable dans nos vies. Ne pas accepter l'inacceptable. Parce que parfois, il y a des chrétiens qui acceptent des situations inacceptables dans leur vie. Et vous savez, il y a une bonne révolte, de se révolter contre des circonstances inacceptables. Ça, c'est une bonne guerre, une bonne révolte, une bonne colère. Il y a des mauvaises colères, mais il y a des bonnes colères. Et une bonne colère, c'est de se révolter, de se mettre en colère contre des situations qui sont inacceptables, dont le diable se rit de nous. Parce que parfois, nous sommes ridicules aux yeux du diable. Nous sommes là le dimanche en train de dire « Dieu est puissant » et puis le lundi matin, on se dit « Mais comment je vais faire pour m'en sortir ?» et on n'a pas dormi de la nuit. Alors, qu'il y ait des périodes comme ça, c'est normal au début de la vie chrétienne. Mais il y a un temps où on doit émerger. Il y a un temps où les choses doivent changer. Il y a un temps où financièrement, tu dois sortir de tes problèmes. Et tu dois prospérer et être capable d'être une source de bénédiction comme nous le verrons. Vous voyez ? Donc, il y a ce temps. Mais il y a un temps d'ignorance, c'est normal. Le temps d'ignorance, il est normal. Mais attention, il ne doit pas durer trop longtemps. Parce qu'après, ça nous crée des problèmes. Au psaume 92, il est dit la chose suivante. On va lire à partir du verset 13. Et il est dit, les justes fleurissent comme le palmier. Et le palmier, c'est un arbre qui est assez étonnant. C'est le seul arbre qui pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Les autres arbres poussent à partir de l'extérieur, avec l'écorce qui se renouvelle. Mais le palmier, lui, pousse de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une image que Dieu nous donne ici. Et en fait, c'est la vie de Dieu qui coule en toi, qui doit se manifester à l'extérieur. Si tu dis que tu es proche du Seigneur, que le Seigneur t'a dit que le Seigneur ceci, que le Seigneur cela, c'est très bien, mon frère, ma soeur. Vous savez, moi, les gens qui parlent beaucoup en disant « Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit », je m'assois et je les regarde pendant 5 ou 10 ans. Et je vois si, effectivement, ce que Dieu leur a dit, ça s'est réalisé. Ça ne m'intéresse pas d'écouter simplement ce que Dieu a dit à quelqu'un. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va être réalisé dans ce que Dieu a dit à cette personne. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Le reste, ça veut dire sinon, ce sont des paroles qui n'ont pas porté de fruits. Si tu dis, le Seigneur t'appelle à telle chose, dans 5 ou 10 ans, si tu es dans la dimension que Dieu t'avait promise, c'est bon. Ça veut dire que tu as vraiment réalisé ce que le Seigneur t'avais montré, et ça s'est accompli. Maintenant, vous savez, faire parler le Seigneur, c'est très facile.
Tout le monde peut faire parler le Seigneur. Tout le monde peut mettre « le Seigneur dit que ». Et moi, vous savez, je suis vraiment fatigué avec ces histoires-là, parce que j'ai entendu beaucoup de gens, « le Seigneur te dit que », »,« le Seigneur te dit que tu seras ceci », »,« le Seigneur te... » Ok, c'est très bien tout ça. Mais ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est que tu le deviennes. L'important, c'est que tu rentres là où ce que Dieu t'a dit. Parce que souvent, on voit des gens qui restent avec des paroles et ça reste vide. Il n'y a aucune réalisation. Et ça, c'est inacceptable. Il faut que les gens changent de ce côté-là. Donc, ils fleurissent. Regardez, il est parlé de fleurir. Quand tu vois un arbre qui fleurit, tu dis, ah, celui-ci, il est prêt à porter quelque chose d'ici quelques mois. Vous voyez ? Ils croissent comme le cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, c'est un très bel arbre, un des plus beaux arbres de la terre. Vraiment, ce sont des arbres qui sont solides, un très très bon bois, plus beau que le bois du Congo. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent. Regardez, plantés dans la maison de l'Éternel. Il y a du très beau bois au Congo, hein. On est jaloux, au Burundi, on n'a pas de beau bois. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Donc on voit un épanouissement. Tu es planté dans la maison de ton Dieu, dans le jardin de ton Dieu. Donc tu dois obligatoirement, si tu dis que tu es proche du Seigneur, il doit y avoir une productivité. Il doit y avoir des fruits partout, 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 partout. C'est ça la vraie prospérité. La vraie prospérité, c'est ça. La vraie prospérité n'est pas donne 100 dollars aujourd'hui et demain tu en auras 10 000. Ça, c'est pas la vraie prospérité. Ça, c'est des espèces de trucs qu'un certain nombre de serviteurs de Dieu ont utilisés, ou des faux serviteurs de Dieu ont utilisés dans certains cas, pour soutirer de l'argent aux gens. Et je suis désolé, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ces principes-là. Donner, on verra la loi de la semence et de la récolte, mais ça doit être fait dans des conditions divines, non pas dans des espèces de réunions à sensations où on secoue les sentiments des gens. Parce que si tu fais quelque chose par sentiment, on verra que ce n'est pas une semence qui peut porter du fruit. Tout ce qui vient de tes sentiments, ça vient de ton âme. Par contre, tout ce que tu fais par conviction, là, ça va porter du fruit. C'est toute la différence entre les deux. Alors, la Bible est claire. Elle nous dit, ils fleurissent dans le parvis de notre Dieu. Et regardez ce qu'il est dit ici. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et ils sont verdoyants. Pour annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher, il n'a pas d'injustice en lui. Il y a quelques mois, j'ai fait un enseignement dans mon église d'une série de deux dimanches sur avoir une longue vie sur la terre. Les chrétiens, souvent, pensent que s'ils meurent pas trop tard, c'est bien. Non, Dieu nous appelle à une longue vie sur la terre. Pasteur, Dieu t'appelle à une longue vie sur la terre. Parce que quand tu as compris les principes divins et que tu deviens vieux, tu es capable, tu es dans de telles dimensions incroyables que tu as une influence absolument phénoménale du royaume de Dieu pour glorifier ton Seigneur. Et Dieu nous appelle à cela. Dieu ne nous appelle pas à une mort prématurée. Le Seigneur a repris son serviteur, ça je ne le vois pas dans la Bible. Ça c'était l'invention des religieux. Il y a beaucoup de descendants de pharisiens parmi les chrétiens. Ils existent encore beaucoup ces gens-là, malheureusement. Et en fait, Dieu nous appelle à vivre longtemps sur cette terre parce qu'on est ultra fécond dans la vieillesse. Quand tu es mature en Christ, tu as une génération qui est une génération montante à former. Tu es devenu un exemple. Nous avons besoin de pères. Nous avons besoin de pères dans les églises, frères et sœurs. Parce que je vois beaucoup de jeunes prédicateurs se lever. Hein. Ils sont souvent comme les étoiles filantes. Ils sont là, ça commence à monter, et d'un coup, paf, ils disparaissent. Parce qu'ils n'ont peut-être pas été encadrés, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé les pères dont ils avaient besoin. Et pour devenir un père, ce n'est pas seulement un titre. Loin de là, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, qui connaît profondément Dieu, qui a amené les autres quelque part pendant des années et qui a prouvé que lui-même se tenait sur la parole, qu'il a prouvé la parole de Dieu dans sa vie. Qu'il a prouvé son caractère, qu'il a prouvé l'onction de Dieu sur sa vie. Et à ce moment-là, là, il y a des gens qui viennent autour de lui en disant, tu as de l'expérience, tu peux m'enseigner quelque chose. Et n'importe qui ici, parce que quand vous vieillirez, vous aurez appliqué les principes de la parole, vous aurez une qualité de vie que les autres envieront. Et vous pourrez dire, ils pourront vous dire, mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour en être arrivé là ? Tu venais, on m'a dit, d'une famille qui était comme ça, tu avais été abusé peut-être quand tu étais jeune, tu avais perdu ton père et ta mère, tu n'avais aucune chance de vraiment marcher dans les choses de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit quelqu'un qui a un certain âge et qui est épanoui dans le Seigneur. La prospérité, rappelez-vous, c'est un épanouissement complet, total, spirituel, mentale, physique. Il y a des gens qui ont peur de vieillir parce qu'ils se disent « Moi, je vais être un petit vieux, je vais être obligé de marcher avec une canne, etc. » Non, 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 non. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Il y a d'excellentes promesses dans la parole de Dieu qui peuvent nous amener à, quand nous sommes âgés, à avoir une qualité de vie exceptionnelle. Là, on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Maintenant, quand tu as souffert, entre autres, de la pauvreté toute ta vie et que tu as dit « Dieu est grand » et que tu as 90 ans et qu'il te manque pratiquement toutes les dents de devant, eh bien, tu n'es pas vraiment le reflet de la gloire de Dieu, parce que tu n'as pas vraiment montré. Oui, mais j'ai prié tout le temps. Oui, d'accord, mais tu n'as pas porté des fruits dans beaucoup de domaines. Amen. Faisons bien attention, frères et sœurs. Il faut commencer à arrêter ces histoires de religiosité, parce que ça nous a pollué la tête. Et il faut comprendre que Dieu nous appelle à devenir des gens très différents des païens, à vivre une qualité de vie différente, pour attirer, non pas pour toi, pour attirer, bien sûr tu en auras un bénéfice, pour attirer ceux qui ne sont pas sauvés. Parce que c'est ça l'objectif. Je vous montrerai que la prospérité financière n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour être une source de bénédiction. Et c'est ça la différence. Et souvent les gens se trompent et c'est là où ils se retrouvent avec de sérieux problèmes. Donc Dieu nous montre clairement que nous sommes plantés comme un jardin, comme un arbre, dans un jardin, le jardin de Dieu. Donc il va falloir commencer à changer nos façons de penser, à voir comment Dieu nous voit, de telle façon que Dieu puisse commencer à, je dirais, amener son royaume avec puissance dans nos vies. Je suis un peu perdu dans mes pages. Je vais les retrouver. Quand j'écris trop, c'est ce qui se passe. Quand j'écris pas assez, j'ai mes versets et après je vais un peu... Là où j'ai envie d'aller très souvent. Il va falloir que j'écrive un peu moins. Alors, très souvent, dans cette mentalité, vous savez, quand on parle de finances et qu'on parle de prospérité, de richesse, les gens pensent tout de suite, « Ah oui, je connais un frère, il était vraiment tout le temps à l'église, il priait beaucoup, et le jour où il a eu sa grande promotion au travail, l'église s'était finie. » Alors, souvent, nous avons ces schémas-là, vous voyez. Ah oui, il était tellement occupé maintenant le week-end que finalement, vraiment, le Seigneur, bon oui, c'est vrai, il prie toujours, mais il prie à la maison. Alors, vous voyez, on voit ce genre de témoignage et on prend ce genre de témoignage et on va dire, donc vous voyez bien ce que l'argent va faire. Oui, mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est l'argent? Non, c'est la mentalité. C'est la relation que ces gens vont avoir avec l'argent. C'est cette relation que des gens ont avec l'argent. C'est vrai qu'il y a des gens qui, quand ils commencent à prospérer, vont se retrouver, je dirais, vont changer. Ça prouve une chose. C'est que, vous savez, la bénédiction de Dieu peut devenir une malédiction pour quelqu'un. Mm-hmm. Ouais. Ah, je l'ai vu, plus d'une fois. Plus d'une fois. Parce que la bénédiction... Avec la bénédiction, tu dois faire grandir le caractère, la mentalité. Si tu ne le fais pas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pour ça que nos mentalités doivent grandir avec notre prospérité. C'est comme, par exemple, un serviteur de Dieu qui démarre une église, puis au bout d'un an ou deux ans, il a par exemple 500 personnes, alors qu'il y a un autre serviteur de Dieu, il a mis 15 ans à en arriver là. Souvent, qu'est-ce qui va se passer? Le jeune serviteur de Dieu va faire quoi? Il va passer à la station-service et il va prendre de l'air. Il va se gonfler. Il va s'enorgueillir, malheureusement. Parce que très souvent, quand les choses arrivent trop vite dans nos vies, tu as plutôt intérêt à faire attention à ton caractère, mon frère, ma sœur. Parce que souvent, c'est ce qui va te rattraper. Et c'est là où tu te retrouves par terre beaucoup plus vite que tu peux ne le penser. Tu es tout en bas et d'un seul coup... Dieu te propulse. Vous savez que c'est souvent une des raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas nous amener là où il aimerait nous amener rapidement. Parce que vous apprendrez une chose. C'est une chose de faire confiance à Dieu, mais Dieu aussi doit nous faire confiance avec ce qu'il nous donne. Et avec les finances, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est très sensible. Parce que l'argent, ça monte très vite à la tête, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire extrêmement attention à notre caractère, que notre caractère soit à la mesure de notre prospérité. Et quand c'est à la mesure de notre prospérité, là, c'est formidable. Là, c'est exceptionnel. Tu as un outil dans la main, dans une main qui a été sanctifiée. Et là, mon frère, ma sœur, tu as une puissance pour frapper dans le royaume des ténèbres qui est absolument incroyable. Et ça, c'est quelque chose que nous devons réaliser. Donc, il ne faut pas prendre les mauvais exemples. Par exemple, il y a des gens qui citent 1 Timothée 6,10, qui le citent très mal. Ça, c'est classique. Les gens religieux prennent souvent des versets comme ça. On parle de mentalité. Mentalité. Quelqu'un a dit la chose suivante. Vous ne pouvez pas savoir réellement qui est une personne qui est pauvre tant que vous ne lui avez pas donné une puissance financière. Vous ne pouvez pas savoir. Vous savez, il y a beaucoup de gens pauvres et démunis qui viennent dans les églises parce qu'ils ne savent pas où aller d'autre. On le voit beaucoup. Par exemple, en Afrique, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils démarrent des églises dans les quartiers pauvres. Comme ça, l'après-midi, ils ont du monde. Ils ont tous les chômeurs du coin. Soyons clairs. J'en ai vu beaucoup de ces gens-là. Soyons clairs, frères et sœurs. Ils font des réunions là où les autres travaillent. Alors, c'est sûr que les gens viennent. Mais quelques années plus tard, croyez-moi, ce genre d'église ont du mal. Parce qu'ils ont mis de mauvaises fondations. De mauvaises fondations. Vous ne pouvez pas réellement voir qui est quelqu'un tant qu'il n'a pas eu de l'argent dans les mains. Un certain montant d'argent dans les mains. C'est au travers de l'argent que vous verrez vraiment le caractère d'une personne. Les gens parfois qui sont doux, qui sont gentils, et le jour où ils ont une puissance financière, ils sont prêts à vous écraser. Comme des mouches. Des bons chrétiens. Des gens qui étaient au premier rang. Je ne vise personne ici. C'est bien de se mettre au premier rang. Mais je dirais, il y a des gens, vous savez, vraiment, alléluia, pasteur, je suis à votre disposition. Et le jour où il a une puissance financière, d'un seul coup, ça le change. Ça le change complètement. Ça le change complètement. 1 Timothée 6,10, là encore, on parle de relations, d'argent. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, pour s'y en être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Bien des tourments. Pourquoi? Parce que c'est la relation qu'ils avaient avec l'argent. Ce n'est pas l'argent. Beaucoup de gens vont lire « L'argent est la racine de tous les... » Non, l'argent est un instrument extraordinaire. Mais les gens, tout dépend dans les mains dans lesquelles ils se trouvent. S'ils se trouvent dans les mains sanctifiées, l'argent est un instrument extraordinaire. Mais là, les gens lisent toujours « C'est l'argent la racine de tous les maux. » Non, l'argent n'est pas la racine de tous les maux. C'est l'amour. C'est l'attachement que tu as à cet argent. C'est la perversité de ta convoitise parce que ta mentalité n'a pas été transformée. Tu restes avec une mentalité de païen en étant sauvé et au moment où tu as cette puissance qui est là, tu te dis « Je vais pouvoir... » Ou alors « Je vais pouvoir crâner avec une belle bagnole et la montrer à tout le monde. Je vais pouvoir montrer que maintenant j'ai un costard à 3 000 $ sur le dos. » Et j'ai une ceinture avec une boussole. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Mais j'ai une belle histoire à vous raconter là-dessus. Regardons Matthieu 18, verset 23. Et suivant. Faisons bien attention, frères et sœurs. Je veux casser toutes ces espèces de clichés pourris qu'on a. Pour vous construire et pour vous montrer comment réellement prospérer. Avec les bons piliers, avec la mentalité de Dieu, avec le regard de Dieu. Parce que ça, c'est indispensable. Si vous n'avez pas le regard de Dieu sur les finances, vous ne pourrez jamais prospérer selon Dieu. Vous allez peut-être prospérer, vous aurez peut-être un très bon boulot, vous aurez peut-être telle ou telle chose, mais vous n'aurez pas compris ce pourquoi vous êtes en train de créer de l'argent. Et vous allez peut-être même utiliser cet argent à des fins qui ne sont pas pures. Et ça, c'est dommage. Et il y a beaucoup de chrétiens qui passent à côté de ce que le Seigneur a prévu pour eux dans le domaine financier. Dieu a un plan financier pour nous, chacun d'entre nous. Dieu a un bon plan financier. Encore faut-il savoir comment y entrer. Tu peux sentir certaines choses, tu peux connaître la parole de Dieu, mais il va falloir vraiment que tu travailles sur tes mentalités. Si tu ne travailles pas sur ça, surtout avec l'argent, tu n'iras pas loin. Regardez par exemple, encore une relation avec l'argent. Mauvaise relation. Il est dit, verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi, 18-23 Matthieu, qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui en devait 10 000 talents. Alors c'était des sommes gigantesques, 10 000 talents, je crois que ça représenterait 10 millions de dollars aujourd'hui. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de vendre lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. » Touché par la compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'était 16 dollars à peu près. Imaginez-vous, il devait 10 millions de dollars, on lui remet la dette. Il sort, il rencontre quelqu'un qui lui doit 16 dollars. 16 dollars. La différence entre 16, le rapport entre 16 dollars et 10 millions de dollars, c'est énorme. Il le saisit et le serra à la gorge. Paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en disant, prends patience envers moi, je te paierai. Mais il ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé, etc. Puis l'autre maître s'est fâché, etc. Là, ce qu'on voit, c'est on voit cet homme, la relation que cet homme avait avec l'argent. Il devait une dette immense. Tout lui est remis, et d'un seul coup, pour quelques dollars, il met l'autre en prison. Il agit par rapport à quoi ? La relation qu'il a avec l'argent. Il y a des gens qui font des trucs incroyables, des chrétiens qui deviennent méconnaissables avec de l'argent. Parce qu'ils ont des mentalités, ils ont une relation qui n'est pas bonne. Ils ne voient pas comment Dieu voit l'argent. Et ça, frères et sœurs, ça demande de se repentir sincèrement. Ça demande de demander pardon au Seigneur et de se dire, Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Parce que cette personne me doit 50 dollars, je suis prêt à exploser de colère contre elle. Imaginez-vous, le mieux, c'est de ne pas prêter d'argent, comme nous le verrons. Ça vous évitera bien des tourments. Le mieux, c'est de se protéger par rapport à ça. Mais très souvent, vous voyez, ici, c'est le problème était la relation de l'argent. C'est une parabole, bien sûr, qui nous montre le pardon de nos péchés, qu'on doit pardonner parce qu'on a été pardonné en Christ, etc. Bien sûr. Mais c'est aussi quelque chose de pratique qu'on voit tous les jours. Combien il y a de cas au tribunal à cause de l'argent? Combien il y a des gens à la police à cause de l'argent? Et où des chrétiens sont impliqués? Où des chrétiens sont impliqués, des frères et sœurs, des fils et des filles du roi des rois sont impliqués. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais je dois bientôt, parce qu'il est un peu tard. Moi, je veux bien continuer. Hein, il faut me dire. 5 minutes, d'accord, merci. Ok, donc cette relation est souvent tronquée, c'est-à-dire elle est tordue. Elle est tordue. Pose-toi la question ce soir, quel type de relation tu as avec l'argent ? Comment est-ce que tu es vis-à-vis de ton prochain par rapport à l'argent? Est-ce que tu as le regard de Dieu? Est-ce que pour toi, l'argent est un instrument pour le royaume de Dieu? Ou est-ce que tu es là et tu es quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour de l'argent? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Il y a des gens qui se marient, par exemple, et c'est un piège souvent pour les jeunes filles. Une jeune fille qui voit un garçon qui a de l'argent. Bon, tu le trouves beau, mais pas trop. Bon, il prie, mais de temps en temps. Mais pasteur, il a de l'argent. Tu crois pas que je peux le laisser passer à côté? Vous voyez? Et paf, tu tombes dans un mariage où, crois-moi, tu vas souffrir. Ou le gars qui est là, qui invite sa fiancée. Il l'invite au resto, il dit, « Ah non, prends pas ça, c'est trop cher. » Ma sœur, ne te marie pas avec lui. Tu vas souffrir. Hein. On voit vraiment ce problème de relation qu'on trouve. Allez, on va terminer encore ce soir par 2 autres versets et après je vais clôturer juste pour ce soir et on continuera après. On va vous provoquer un peu. La Bible nous dit dans Jacques, chapitre 1, puissance de cette parole. On parle des raisonnements, des mentalités. Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques dit, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Beaucoup de gens entendent des choses sur les finances, sur le chrétien et les finances, etc., etc. Et ils s'abusent avec de faux raisonnements. Faites attention à cela. Vous savez, nous sommes à peu près, je ne sais pas, il y a 6 milliards d'êtres humains ou 7 milliards, je ne sais pas exactement. Nous sommes les seuls à nous voir dans la boîte. Les autres, le nombre d'habitants sur cette terre, moins un, nous voit à l'extérieur de la boîte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont tu vas te comporter, ce sont les autres qui te regardent. Et tu dois y faire attention. Très attention. Un serviteur de Dieu, par exemple, doit faire extrêmement attention vis-à-vis de son comportement financier. S'il se comporte correctement, Dieu bénira d'une façon spéciale. Le chrétien doit faire attention. Comment il se comporte financièrement? Sa réputation financière. Quand quelqu'un est pris en faisant des choses qui ne sont pas honnêtes, donc malhonnêtes, quand c'est quelqu'un où le moindre truc financier pose des problèmes dans son caractère, ça, c'est des mauvais symptômes, ça. Ça veut dire que tu as un regard, une mentalité par rapport à l'argent qui n'est pas divine. Tu dois acquérir cette mentalité. Tu dois comprendre ce pourquoi Dieu a voulu que tu prospères financièrement. Matthieu 6, 34. Matthieu 6, verset 34. 19 à 21. Parce que beaucoup de gens disent non, la prospérité, c'est des choses qui ne sont pas bonnes, il faut s'en écarter, il y a l'évangile de prospérité. Je pense que vous avez entendu cette expression-là. Est-ce que vous prêchez l'évangile de la prospérité? Moi, je dis aux gens qui me disent ça, qu'est-ce que vous entendez par cela? Qu'est-ce que vous entendez par cela? L'évangile de la prospérité, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si, est-ce que la prospérité, c'est l'épanouissement tel qu'on l'a défini et faire un bon voyage sur cette terre? Oui, je prêche cela. Maintenant, je ne prêche pas un évangile où, comme je vous le disais précédemment, donne 100 dollars, tu auras 10 000 dollars. Non, ça, je ne le fais pas. Non, je ne crois pas dans les petits trucs magiques. Dieu n'est pas un magicien. Dieu fonctionne avec des valeurs. Vous savez que Dieu a des valeurs. Et il veut que nous lui ressemblions. Jésus dira, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez, il nous pousse au niveau du caractère en disant, les valeurs que mon Père a, vous devez les avoir. D'intégrité, d'honnêteté, etc., etc. Mais aussi de prospérité. Les valeurs, Dieu fonctionne avec des valeurs. Et quand tu commences à mettre de bonnes valeurs dans ta vie, en particulier vis-à-vis des finances, tu verras. Alors souvent, des gens vont utiliser des versets comme verset 19, 6, 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, donc dans le troisième ciel, là où Dieu habite, où ni les vers ni la rouille se détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Alors les gens disent, ah ben voilà, ça veut dire que sur cette terre, je ne peux pas amasser de l'argent. Mais Jésus n'a pas dit ça. Les gens prennent ça littéralement. Jésus n'a pas du tout dit ça. Jésus parle ici, encore une fois, de la relation que nous avons avec l'argent. Jésus n'a pas dit que être riche ne doit pas être le lot du chrétien. Nous étudierons des personnages bibliques que Dieu a rendus non pas riches, mais ultra riches, immensément riches. Donc Dieu n'a jamais dit que nous ne devons pas être riches ou très riches ou super riches. Dieu n'a jamais dit une telle chose. Par contre, Jésus explique que la valeur que tu dois avoir, c'est l'investissement dans le royaume. L'investissement dans le royaume. C'est-à-dire que l'argent que tu vas créer doit servir en priorité à financer le royaume. C'est ce que nous allons découvrir dans les leçons qui vont suivre. Là, j'ai juste fait une petite introduction. C'est vraiment une brève introduction que j'ai faite. Comme nous avons un certain nombre de séances, je vais vous amener de plus en plus à comprendre la mentalité de Dieu et à comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez ? Parce que c'est très important. Je clôture là pour ce soir. Père, je veux te remercier pour ta parole. Et Père, nous croyons que tu veux mettre en nous des puissantes valeurs, des valeurs de ta parole, des valeurs de ton caractère. Père, nous voulons comprendre ce hold-up financier dans lequel nous nous trouvons. Et nous voulons nous insurger contre ces choses. Nous voulons comprendre notre rôle en tant qu'Église. Père, je te remercie parce que tu es un Dieu extraordinaire. Tu veux, Seigneur, que nous rentrions, Seigneur, dans ces principes de la prospérité, mais non pas comme avec la mentalité une mentalité non transformée, une mentalité du monde, mais avec ta mentalité, Seigneur. Parce que c'est là, Seigneur, où tu peux nous amener, dans les hauteurs les plus merveilleuses, afin que nous puissions être influents, Seigneur, dans ce monde. Parce que nous ne sommes plus, Seigneur, de ce monde, mais tu nous as placés dans ce monde. Je te remercie parce que ta parole va faire du chemin pendant toute cette semaine, dans chaque cœur, chaque mentalité de ses frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.